Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion.
Ce n'est pas une émission de radio. C'est un pli, un espace d'apparition. C'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Eh, benvenuti a tutti, les ragazzi, les ragazzo, les ragazze. On est bien à Vacarmo Réunion. Aujourd'hui, il fait chaud, ça va être un peu atmosphère chaleur. Alors, on vous présente les nouvelles rubriques médicales.
Si, si.
Et on savait pas comment choisir entre la rubrique médicale et la nouvelle rubrique italienne. Alors, on a décidé de faire une petite cours de médecine en italien, voilà. Et on commence tout de suite par une introduction en français, malheureusement, mais ça vient après pour l'italien.
Les vents sont exposés à une multitude de micro-organismes nocifs, tels que les virus, les bactéries ou les parasites. Contre ces agents infectieux, ils sont dotés d'un système immunitaire qui les protège. Quand un micro-organisme franchit les premières barrières de défense, plusieurs réactions immunitaires régies par les différents globules blancs sont possibles. Le corps étranger peut tout d'abord être détecté, englobé, puis phagocyté par les polynucléaires. Mais il arrive que certains germes envahisseurs parviennent à déjouer cette réaction. Les lymphocytes T4, capables de reconnaître les protéines présentes à la surface des intrus, font intervenir les lymphocytes T-cytotoxiques, qui sont chargés de les détruire. Ce mécanisme s'appelle l'immunité cellulaire.
Ah, que cazzo, c'est pas très intéressant, hein. On va se détourner un peu de la médecine pure et dure pour aller vers un peu de culture italienne. Et donc, on va vous faire une petite interprétation en direct d'un extrait dessiné, d'une bande dessinée de Zero Calgare. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Zero Calgare, Ginetta?
Bah oui, alors Zero Calgare, c'est un dessinateur qui il est italien et il est très bien, il est très jeune et c'est très bien. Et il fait des bandes dessinées qui elles sont très bien parce qu'elles parlent de la vie un peu de tous les jours, mais un peu comme s'il y avait de la politique même dans la vie de tous les jours. Et là, eh bien, on a une petite fumetti, comme ils disent, une petite fumetti sur la médecine. Elle s'appelle... Dis-moi comment elle s'appelle.
Medicina anno zero.
Oui, médecine, année zéro.
La mia generazione è ipocondriaca da sempre. Molto prima di Dottor House o Grey's Anatomy. Ma cose che ci ha permeato così a fondo, fino a convincersi che ogni influenza è morbo mortale. È un morbo mortale.
Ma génération est hypochondriaque depuis toujours, bien avant Dr House ou Grey's Anatomy. Mais qu'est-ce qui a permis en fait que ce soit comme ça au fond ? Parce que jusqu'à nous convaincre que chaque grippe peut être une maladie mortelle.
Tchit 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 ! Alicia ! La télévision !
Chut ! Ça commence !
Et que peut être ?
Mais qu'est-ce que ça peut bien être ?
Prenez le virus prima qu'arrive à poumoni.
Prenez ce virus avant qu'il arrive au poumon.
Nana scampa.
Il n'a pas d'échappatoire.
Fermo virus. Siamo la polizia del corpo umano.
Stop virus. Nous sommes la police du corps humain.
Ma è vero che sonni mi lavo le mani si infiltrano nel mio corpo da spessi dispertenti antropomorfi che organizzano una rave nella mia aorta femorale?
Maman, ma c'est vrai che si je me lave pas les mains, elles vont s'infiltrer dans mon corps des espèces de serpents antropomorphes qui organisent une rave dans mon aorta femorale!
Eppure, come ad ogni ragazzino cresciuto con un miti cristotepisti di Robin Hood o dei pirati.
un certo immaginario non poteva che ripugnarmi.
Pourtant, comme chaque petit garçon qui a grandi avec les mythes des voyous et des bandits, de Robin des Bois et des pirates, cet imaginaire ne pouvait que me répugner.
Se Lupin sapesse che ho del guardie in corpo mi ci farebbe. Le tipe di occhi di gatto non mi sospetterebbero più.
Mais oui, et si Arsène Lupin savait que j'ai dans mon corps des gardes du corps, ah mais je le découterais. Et les types de Robin des Bois, putain, mais ils me respecteraient même plus.
La désoccupazione ti ha dato un bel mestiere, mestiere di merda, anticorpo. La disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, mestiere di merda, anticorpo. Spostiamo i vasi sanguinini in mezzo alla venna e poi insidiamoli come barricata.
Le chômage t'a donné un beau métier, métier de merde, anticorps. Posons-nous dans les veines sanguines, faisons un barrage et puis incendions-le comme une grande barricade.
Mi resterebbe solo quello sfigato di Robocop cazzo.
Il ne me resterait finalement que ce crétin de Robocop.
Mi fili, prendi lo sciroppo, ti fa bene.
Bon, mon chéri, prends ce sirop là, ça va te faire du bien.
Non, maman, è da infami collaborazionisti.
Non, hors de question, c'est de l'infâme collaborationnisme.
Not in my name.
Not in my name.
Mi sentivo come il figlio dello zar. Segretamente affascinato dai rivoluzionari russi, ma prigioniero del suo ruolo.
Je me sentais comme le fils du tsar, secrètement fasciné par les révolutionnaires russes, mais prisonnier de son propre rôle.
Maestro, abbiamo ucciso altri 10 cani bolchevici. Attentavano alla sua vita.
Majesté, nous avons tué 10 autres de ces chiens de bolcheviques. Ils attentaient à votre vie.
Cesate questo massacro! Il popolo chiede solo giustizia!
Mais cessez ce massacre! Le peuple ne demande que justice!
Taci, figliolo! Non sa di cosi parli! Ben fatto miraglio!
Tais-toi, mon fils! Tu ne sais pas de quoi tu parles! Vous avez bien fait, Amirail!
Almeno mi hai comprato le figurine del cricket!
Mais Amirail, est-ce que tu m'as au moins acheté mes figurines de cricket?
Purtroppo, mi captività spesso di cedere, a causa del mio buon cuore.
Pourtant, à la fin, je comprenais qu'il fallait céder. Eh oui, c'était à cause de mon bon cœur.
Ma pure, il tuo è così cretino, che non ha fatto di male.
Allô, allô, maman? Ah oh, putain, le fils veut toujours pas prendre le médicament, mais qu'est-ce qui m'a donné un crétin pareil? Le tien, ça fait pareil ou quoi?
E tia madre, però il tuo scrioppo.
Siroppo, il tuo siroppo, ma solo per non darti un dolore.
Très bien, maman, je boirai ton sirop, mais seulement pour ne pas te donner de la douleur.
Non è nella natura di una gallina sopravvivere al suo pulcino.
Eh oui, maman, c'est parce que ce n'est pas dans la nature d'une poule de survivre à son poussin.
Camminati coi raghi rogati! Fatevi capire che significa liberarsi del sistema immunitario!
Exterminez tous ces rats de drogués! Faites-leur comprendre ce que signifie se rebeller au système immunitaire!
Un cocktail Molotov! Ah, ok, ok, un cocktail Molotov! Vergogna! State massacrando delle piastrine!
Mais les anticorps massacrent tout le monde, ils massacrent même des plaquettes. Les plaquettes, c'est bon pour le système immunitaire. Honte à vous, honte à vous. Année 90, tant de souffrance.
Ogni ma guarigione a sempre avuto un regrusto amaro.
Aujourd'hui, ma guérison a toujours eu un arrière-goût amer.
Non importa, segli altri, ora ti schifano. Possiamo divertirci, noi due.
Moi, Robocop, je suis ton ami. Ce n'est pas important si les autres maintenant te font la gueule. On peut s'amuser tous les deux.
Adesso andiamo ad arrestare gli zingari al semaforo e poi stappiamo una casossa.
Maintenant, on n'a qu'à aller arrêter des gitans au feu rouge et puis on se boira une petite limonade tous les deux.
Prima, però, devo mettere in carica la prostata. Il vero sballo è dire no.
Mais avant, il faut que j'aille mettre une petite charge du côté de la prostate. Tu verras, le vrai kiff dans la vie, c'est de dire non. Alors, cette BD de Zéro Calcaré, auquel sûrement vous avez rien compris, et qui s'appelle Médecine à notre zéro, elle change notre regard sur Il était une fois la vie. J'espère que vous irez voir un nouvel épisode de Il était une fois la vie. Et on s'aperçoit que qu'est-ce qui a bercé toute notre enfance, enfin en tout cas toute la mienne, et sûrement celle de beaucoup d'entre vous, c'est des épisodes où on voit que qui c'est qui nous permet de ne pas mourir jour après jour au sein de notre petit corps. Ce sont des anticorps qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la police. Et oui, alors on pourra voir sur la BD de Zéro Calgary, on voit ça. Je la mettrai sur notre blog, vous verrez ça. Le blog donc du coup tvnr.noblogs.org, vous irez voir. Et du coup, on voit des petits anticorps qui sont dans des petites cellules de police et qui ont des petits uniformes et qui ressemblent à des CRS qui chargent et qui ont des matraques, etc. Et ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on voit dans Il était une fois la vie. Vous pourrez donc aller voir ça.
Voilà, et je ne sais pas si les policiers et les CRS en particulier, eux aussi, ont grandi en regardant Il était une fois la vie, mais en tout cas, ils se sont bien conformés à leur rôle d'anticorps au sein du grand corps social de la société cette semaine, puisque mercredi, ils ont débarqué en grand nombre, avec un énorme dispositif très très impressionnant, avec un hélicoptère, avec des dizaines de camions, etc. Et ils ont expulsé le squat de migrants de la rue René Coty. Je suppose que la plupart d'entre vous sont au courant un peu de ce qui s'est passé, enfin ou du moins du fait qu'il y a eu l'expulsion. Voilà, donc comme d'habitude, ça a été le grand balai avec l'enfumage médiatique du bien public qui nous a mis une belle première page avec le monstrueux brasier du boulevard. Et qui mettait en cause voilà les tanneurs comme étant de sauvages opposants prêts à tout pour en découdre et empêcher l'expulsion. Voilà. Et juste pour revenir un peu sur l'histoire de Squat, ça faisait bientôt 2 ans qu'il avait été ouvert, ouais. 1 an et demi. Et du coup, ça faisait un certain moment que l'UNEDIC, puisque c'était eux, l'UNEDIC qui sont les propriétaires, avaient réclamé leurs biens et ils avaient gagné gain de cause évidemment au tribunal. Et voilà, donc on s'attendait à ce que ça arrive à un moment ou à un autre, mais ça arrivait plutôt que prévu. Et du coup il y a pas mal de migrants en galère qui ont en partie je crois été accueillis aujourd'hui aux tanneries. Voilà, et il y a eu une manifestation il me semble le soir qui a fait un peu le tour de tous les lieux qui avaient été squattés, qui sont toujours désespérément vides ou malencontreusement détruits, et notamment l'école des greffes qui donc était le premier de la série de squats qui a été ouvert, où il y avait des dizaines et des dizaines de chambres.
Pour rappeler un peu, c'est qui les gens qui vivaient au Pôle emploi, parce qu'on dit les migrants, mais du coup il y avait, je sais pas, une centaine de personnes quoi qui vivaient là-bas. Je sais pas très précisément, mais il y en a beaucoup qui venaient du Tchad, du Mali, d'Érythrée, de ce genre de pays. Entre autres, des pays qui sont en guerre et dans lesquels la vie de ces gens en fait était menacée. Et du coup il y en a beaucoup qui réclament un statut de, enfin qui sont demandés d'asile quoi, qui demande aujourd'hui l'asile en France. Et à minima la constitution française normalement oblige l'État français à les loger, c'est-à-dire que le droit au logement et le droit d'asile fait que normalement toutes ces personnes-là devraient pouvoir avoir un toit en attendant de savoir si elles peuvent rester en France ou pas. Une décision qui reste dans les mains arbitraires du gouvernement français et de sa justice. Mais voilà, à minima, elle devait au moins les loger. Or, aujourd'hui, il y a, je sais pas, c'est très difficile de savoir combien de personnes, mais voilà, à René Coty, il y avait entre 100 et 150 personnes qui vivaient là-bas et qui ne trouvent pas de logement autrement qu'en prenant des lieux comme ça, du coup, de fait, en les occupant, quoi. Et du coup, en fait, la mairie de Dijon sait très bien que c'est une situation de, je sais pas comment dire, quoi, que de nécessité. C'est pour ça aussi qu'elle tolère un petit moment cette situation, c'est parce qu'elle sait très bien qu'elle est pas en capacité de loger tous ces gens. Et puis il y a un moment, on sait pas trop qu'est-ce qui motive ces décisions-là, mais voilà, elle fait un espèce de hola et elle fout tout le monde à la porte, quoi.
Oui, évidemment, ils maintiennent une certaine tension pour pas qu'on ait l'impression, enfin pour pas que les migrants qui seraient chez Bidbe chercher un endroit où pouvoir s'installer, ils croient qu'à Dijon c'est la fête et qu'on peut rester indéfiniment dans des squats. Du coup, un peu ils cherchent une espèce d'équilibre bizarre et un peu malsain entre ce à quoi ils peuvent pas faire face et voilà l'espèce de force de détermination à les dégager et à pas leur mener la vie facile qu'ils sont obligés de prouver.
Du coup, le pôle emploi de la rue René Coty est à présent vide, muré, parce qu'on voudrait surtout pas que quelqu'un d'autre s'y réinstalle vite, et du coup ne sert plus à rien pendant certainement un bon bout de temps, quand on voit ce qui est arrivé à l'école des greffes. Il y a pas mal de gens qui cherchent actuellement un logement, et toutes leurs affaires ont été envoyées à Saint-Apollinaire, ils sont sommés alors qu'ils ont pas de caisse, ils ont rien, d'aller les récupérer, du coup ça atteint vraiment, c'est vraiment du bon foutage de gueule, quoi.
Et pour retourner le foutage de gueule dans l'autre sens, on voulait vous proposer une petite création radiophonique qu'on a récupérée sur Arte Radio, qui nous explique comment, même si on prend toutes les précautions stylistiques nécessaires pour retourner soi-même chez soi et passer soi-même la frontière dans le sens qui convient aux autorités, eh bien ça ne marche pas et qu'on sera toujours rattrapé.
Premier mois de l'année 2010, selon la CIMAD. 32 Marocains ont été expulsés alors qu'ils rentraient chez eux. Vous avez bien entendu. On les a empêchés de partir pour pouvoir les expulser. Il faut savoir qu'une expulsion, avec rétention, escorte et voyage, coûte en moyenne 20 000 euros aux contribuables français, ce qui fait un peu mal au porte-monnaie. Surtout quand on sait que ces personnes rentraient déjà chez elles, à leurs frais. Alors quelques journalistes mal intentionnés accusent la politique du chiffre mise en place par le président de la République et des médias, qui pousserait les gardiens de la paix à privilégier la calculette plutôt que l'intérêt général. Un peu à la manière des soviétiques qui faisaient n'importe quoi pourvu que les chiffres soient bons. Nos policiers s'arrangeraient donc avec la réalité. Vous y croyez, vous ? Non, soyons sérieux. Vous pensez vraiment que d'honnêtes agents de la police nationale feraient un truc comme ça ? À 20 000 euros par tête de pipe ? Enfin, chaque policier sait bien que le prix du Marocain au commissariat n'est pas aussi élevé. Ou alors, c'est qu'il y a une autre raison. Réfléchissons. Si les agents ont arrêté des Marocains qui partaient, dans le but de les empêcher de partir, pour pouvoir les faire repartir juste après, c'est qu'il y avait une raison, forcément. Laquelle ? Les policiers ne voulaient pas que les Marocains partent par leurs propres moyens. Ok. Ils voulaient les faire partir eux-mêmes. Pourquoi ? À mon avis, c'est parce que ces Marocains-là partaient mal. Ils avaient fait un mauvais départ, ce qui a obligé les policiers à les sanctionner, comme pour une finale de 100 mètres. Il fallait donc les arrêter afin de les faire repartir correctement ensuite. D'ailleurs, il est normal que la police nationale remette les gens qui sont mal partis dans le droit chemin, non ? Il s'agit peut-être d'une œuvre éducative à destination des étrangers. Il faut leur apprendre à partir, oui, mais avec du style. Oyez, mes seigneurs étrangers, les galantes façons qu'il convient d'adopter pour quitter en gentilshommes notre belle terre de France. C'est important, une frontière, merde. Ça ne se passe pas n'importe comment. Ce n'est peut-être qu'une ligne. Mais quand on voit le nombre de gens qui sont morts pour la garder, on se dit que la vie, finalement, c'est toujours une histoire de régime. Je vous la refais, il y a une blague. La ligne, quand on voit le nombre de gens qui sont morts pour la garder, on se dit que la vie, finalement, c'est toujours une histoire de régime. Mais à mon avis, ils ont dû tomber sur des Marocains qui passaient la frontière, mais n'importe comment, par-dessus la jambe, si j'ose dire. Tenez, par exemple, imaginez qu'il y en ait un qui passe la frontière en moonwalk, comme Michael Jackson. Vous, vous êtes policier. Qu'est-ce que vous faites ? Vous intervenez pour le faire ressortir. Normal. Le type passe la frontière dans le mauvais sens, en glissant à reculons. Alors vous lui demandez ses papiers, et là, stupeur, le type n'est pas que marocain. En plus, il est ressortissant marocain. Allez hop, c'est tout vu, en tôle. D'où il ressort, qu'on ne peut pas laisser un ressortissant qui sort à son sort, c'est sûr. Alors on s'en sort en coupant le ressortissant dans son essor vers la sortie, puis on le ressort de sorte qu'il sorte à sortie d'une bonne paire d'agents de police. Bref, tout ça n'a rien à voir avec la politique du chiffre, non. Tout ça, c'est du spectacle. Et il en va des policiers comme des comédiens au théâtre. Il faut apprendre à réussir ses sorties.
Thank you.
Voilà, c'était donc un petit extrait sonore de Le Bon, la Brute et le Cinglé, un western parodique coréen. Et c'était pour introduire la thématique musicale de cette émission, qui est donc le western, en soutien au concours de mini-western qui est organisé pendant la fête des lentilles hier. Voilà, on aura d'autres petits extraits d'autres films bien connus ou de découvertes.
Pour finir sur cet épisode de l'expulsion du squat René Coty, on a pu voir dans le journal qu'il y avait trois personnes qui s'étaient fait arrêter en marge de cette expulsion. Et du coup, c'est trois personnes qui se baladaient pas très loin du squat René Coty, qui et en fait tous les alentours du squat ont été bouclés par la police. Du coup, la circulation a été arrêtée, etc. Et il y avait même un hélicoptère qui survolait à ce moment-là cet endroit-là. Et du coup, il y a eu de nombreux contrôles d'identité dans les alentours. Pendant toute la durée de l'expulsion. Et il y a trois personnes qui n'avaient pas leurs papiers sur elles et qui ont été embarquées par les flics et qui ont fait 30 heures de garde à vue alors qu'elles n'avaient strictement rien fait au moment où elles se sont fait arrêter, quoi. Et lors d'une vérification d'identité, comme elles étaient pas en mesure de donner, de vérifier, de pouvoir donner des confirmations de leur identité à la police, on leur a demandé de donner leur empreinte, ce qu'elles ont refusé de faire. Elles ont alors été placées en garde à vue. On leur a redemandé leurs empreintes. On pourrait vous expliquer, mais c'est un peu long. Il y a deux fichiers différents. Du coup, ça constitue deux délits différents. Une fois que t'es en garde à vue, on peut te prendre tes 10 doigts de la main, ce qui n'est pas le cas quand t'es simplement en vérification d'identité. Et comme elles ont refusé, elles se sont trouvées dans une garde à vue qui était prolongée. Il se trouve que finalement, elles sont sorties de garde à vue parce qu'elles avaient donné des faux noms à la police, ce qui fait que c'est pour ça que la police n'arrivait pas à vérifier leur identité. Et elles ont changé, elles ont finalement donné leur véritable identité, et du coup, elles sont sorties au bout de 30 heures de garde à vue. On s'arrête là-dessus parce que c'est quand même un truc un peu exceptionnel de demander des empreintes à quelqu'un. Enfin, on a l'impression comme ça que ça peut être quelque chose d'un peu exceptionnel de demander des empreintes à quelqu'un simplement parce qu'il se balade dans la rue, mais il faut savoir que depuis quelques années, c'est la politique systématique de la police de demander les empreintes de toutes les personnes qui passent au commissariat, c'est-à-dire toutes les personnes qui passent en audition libre, en vérification d'identité, mais aussi en garde à vue, qu'elles soient accusées ou pas, qu'elles soient soupçonnées ou pas d'avoir commis un délit, c'est-à-dire que même quand vous êtes entendu en tant que témoin, on vous demande de donner vos empreintes au commissariat. Du coup, il faut bien avoir en tête que c'est une espèce de fichage systématique des empreintes digitales de la population française qui est en train de se faire actuellement, quoi. Du coup, voilà, on voulait dire, il y a trois personnes là qui ont refusé de se plier à ce fichage là et elles vont passer en procès le 1er juin.
Et donc pour continuer avec un thème d'actualité dans la lignée du fichage généralisé, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un projet de loi relatif au renseignement qui a été pondu il y a quelques semaines et qui va être proposé au vote à l'Assemblée dans les prochains jours, suivant une procédure d'urgence. Voilà, donc c'est le projet de loi que le gouvernement a pondu après les attentats de Charlie Hebdo. Et donc finalement, on peut résumer assez simplement, je pense, le contenu de cette loi en disant que c'est une sorte de légalisation de toutes les pratiques d'exception qui étaient déjà en cours. Et donc il surfe sur la vague de lutte contre le terrorisme actuel pour, entre guillemets, se donner un peu plus de largeur, légaliser toutes leurs pratiques et voilà qu'on puisse un peu moins leur reprocher tout ce qu'ils font et mettre un peu d'ordre là-dedans. Voilà, donc pour un peu illustrer tout ça, je voulais vous lire un court extrait d'un texte qu'on a trouvé sur le site du syndicat de la magistrature. Voilà, donc une bonne partie du texte est un peu technique. Il sera en ligne sur le blog si vous voulez le lire. Et j'ai sélectionné un petit passage que je vous lis tout de suite. Donc voilà. Le renversement des principes est aussi choquant que fièrement assumé. C'est ainsi que l'exposé des motifs pose d'abord que les agents des services spécialisés de renseignement demeurent exposés à des risques pénaux injustifiés. En deuxième lieu, l'absence de règles claires favorise les suspicions infondées sur l'activité des services spécialisés et fragilise leur action. Sans s'y lier, le gouvernement offre un blanc-seing à des services au moment même où il présente un texte dont l'objet rappelle à lui seul combien il fonctionne depuis plusieurs années dans la plus grande illégalité. La protection des libertés de tout un chacun n'est visée qu'au final, que dans une deuxième partie, enfin, qu'à la fin du texte. En troisième lieu, l'insuffisance de la loi limite l'étendue du contrôle exercé sur les services spécialisés. Ce qui n'a pas de fondement légal, n'a pas de contrôle organisé, ce qui n'est pas acceptable dans une société démocratique attachée à la protection des libertés constitutionnellement garanties. Cet ordre des priorités constitue une juste présentation du texte, dont les dispositions combinées légalisent tout un panel de techniques de surveillance. Certaines préexistences, notamment en matière d'interception des correspondances et d'accès administratif aux données de connexion, d'autres nouvelles, notamment en ce qui concerne certaines techniques de sonorisation de lieux, de captation de données ou de localisation en temps réel d'objets ou de personnes. Voilà l'objet réel de ce texte, légaliser au profit de services, au fonctionnement par essence occulte, des prérogatives très larges, permettant une surveillance étendue et renforcée dans l'espace virtuel et dans l'espace physique, tout en organisant un système de contrôle a priori dérisoire et a posteriori illusoire. Voilà. Donc après, le texte revient un peu sur le cycle de renforcement de la surveillance, avec déjà une première loi antiterroriste en novembre 2014, et une autre loi sur la programmation militaire l'année précédente. Et donc, il précise un peu comment on était déjà dans une séquence de renforcement des pouvoirs du renseignement. Voilà. Et donc, de ce texte est plus ou moins évacué la problématique des dérives potentielles des services secrets. Et voilà, on écarte un peu la question des dérives du débat. On est dans une espèce de parenthèse après les attentats où on peut faire un peu. On a le sentiment que le gouvernement peut tente de faire passer un peu ce qu'il veut, quoi. Voilà. Ça, c'était pour donc la loi sur le renseignement. Qui va être voté dans les prochains jours. Il y a donc quelques mouvements d'opposition qui se sont fait sentir ici et là. Il y a quelques manifestations. Vous pouvez aller notamment vous renseigner sur la quadrature du net qui référence quelques manifestations à venir. Voilà. Et ce qui est très étrange, c'est que ça suscite l'opposition d'un panel très large d'organisations et de personnes jusqu'à certains syndicats de police ou jusqu'à certains juges antiterroristes, dont on a du mal à comprendre exactement quel est le fondement de leur opposition à ce texte de loi. Voilà, donc on va continuer, comme on vous le disait, avec un nouvel extrait musical de La Porte du Paradis, qui est un western bien spécial de Michael Cimino.
Voilà, on nous a dit, quoi, vous allez faire une émission sur les migrants et sur les westerns et sur le système immunitaire, ça n'a aucun sens. Vous vous êtes aperçu que il y avait une espèce d'articulation logique absolument parfaite entre notre cours d'italien sur le système immunitaire et l'expulsion du squat René Coty. Et voici maintenant, avec ce que vous avez entendu, la clé de voûte de la logique de toute notre émission. Ce que vous venez d'entendre, c'est La Porte du Paradis, c'est un extrait de La Porte du Paradis, un très très long film de Michael Cimino, que je ne sais pas vous dire de quand, dans les années quand il a été produit, je pense dans les années 70. C'est en couleur en tout cas, voilà. C'est avec Isabelle Huppert et puis d'autres gens qui sont plutôt américains les autres. Et du coup, La Porte du Paradis, The Heaven's Gate en anglais. C'est un très long film qui raconte, donc qui est filmé comme un western avec la plupart des codes des westerns, mais qui raconte non pas la conquête de l'Ouest par les cow-boys qui vont massacrer les Indiens, mais un épisode très très peu connu en fait de l'histoire de la construction de l'État américain, qui est le massacre des immigrants d'Europe de l'Est. Dans tout un tas de comtés américains. C'est-à-dire qu'il y avait une immigration qui venait d'Europe, et du coup, le film parle surtout de celle qui venait d'Europe de l'Est, entre autres de Bulgarie, je me souviens, qui était assez massive dans certaines zones américaines, et les gens s'installaient dans des comtés, et comme ils n'avaient pas d'accès à la propriété, parce que la vie leur était un peu rude, eh bien, ça leur arrivait fréquemment de tuer du bétail, d'aller voler du bétail dans des riches propriétés d'associations d'éleveurs, etc. quoi. Et le film raconte un épisode qui est a priori véridique, où il y a l'association des éleveurs, du coup une très grande association de plein de grands propriétaires terriens et d'éleveurs américains, qui aurait fait une liste noire d'immigrés à aller tuer, et ils auraient engagé une armée de mercenaires pour aller exterminer cette liste, du coup tous les gens qui seraient sur cette liste. Parce que ils ont demandé à l'État américain à de moult reprises de sévir contre eux, et que c'était pas ils étaient pas contents de la réponse de l'État américain, et du coup ils décidaient eux-mêmes de former une armée de mercenaires et d'aller exterminer tous les gens qu'ils estimaient être des voleurs. Et du coup le film raconte se passe dans un des comtés qui est particulièrement visé par cette association d'éleveurs, et du coup on est avec tous ces immigrés bulgares, etc., dans des paysages américains absolument magnifiques, et c'est un peu l'épisode tragique qui vient salir la mémoire de l'histoire américaine. Et je vous raconte ça comme ça parce que du coup le film a été plutôt censuré aux États-Unis, si ce n'est légalement, en tout cas la critique l'a entièrement boycotté, alors que Michael Cimino, il était très connu et son film était très attendu, et les critiques les ont massacrés, ce qui fait qu'il a perdu énormément d'argent, les cinémas ont refusé de le projeter, etc. Et encore aujourd'hui, c'est très difficile de le trouver, ce qui fait qu'on voulait vous passer des extraits en français du film et qu'on n'en a pas trouvé. On a hésité à vous sous-titrer les passages anglais, mais on s'est dit que le cours d'anglais, ce serait pour plus tard. Voilà.
Du coup, juste peut-être dire deux mots sur un peu l'histoire du western avant qu'on puisse assister à des productions de ce genre, un peu des westerns, disons politiques, quoi, qui reviennent un peu de manière polémique sur l'histoire des États-Unis. Ça a pas toujours été ça, mais ça a pas été non plus complètement l'inverse, c'est-à-dire aux origines du western, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Indien est pas spécialement représenté comme un ennemi. Au contraire, l'Indien, c'est, bon, après la figure de l'Indien est quand même abordée avec une certaine condescendance, mais voilà, il incarne une certaine sagesse, un certain rapport particulier à la nature, et voilà, aux grandes étendues du paysage américain. Et c'est fait pas très surprenant, c'est à partir des années 30 et avec la crise, etc., au moment où la conquête de l'Ouest prend fin, et même l'idéal de la conquête de l'Ouest finalement s'essouffle. Et c'est à partir de ce moment-là que on va avoir l'Indien apparaître dans les représentations du western comme cette figure du sauvage, de l'altérité radicale, et voilà, cette espèce de figure étrangère au progrès de la civilisation et même hostile, quoi. C'est vraiment la figure qui empêche le progrès de se déployer, quoi. Et voilà, et donc il y a toute une période comme ça où se forge un peu une certaine mentalité raciste du western par rapport aux Indiens, quoi. C'est mais assez caricatural. Et ensuite on reviendra justement sur le western redeviendra polémique dans les années 60 et 70 avec toutes les guerres, notamment toutes les guerres coloniales, si on peut dire ça comme ça, des États-Unis, notamment au Vietnam. Et on aura de nouveau des westerns qui reviendront sur l'espèce de péché originel ou l'espèce de génocide, de crime primordial qui procède à la naissance de l'Amérique, qui est le génocide indien, doublé du problème de l'esclavage. Donc il faudra attendre les années 70 pour avoir ce genre de western un peu politique. Et après, pour ceux dont nous sommes les héritiers, c'est plutôt, on pourrait dire, de comment l'Europe et particulièrement les Italiens sont ressaisis du western. Et c'est plutôt, j'ai l'impression, des western spaghetti dont nous sommes les héritiers, qui sont maintenus en tête d'affiche dans les représentations.
Ouais, vous l'aurez compris, on vous dit tout ça parce qu'on aime les westerns et que cette passion pour le western est un petit peu difficile à assumer politiquement. Mais on a quand même lu quelques trucs à propos des westerns spaghetti, entre autres, qui étaient présentés comme le contre-coup à un western traditionnel qui aurait défendu des valeurs traditionnelles américaines, etc., qui était extrêmement moraliste. C'est-à-dire avec des camps de bons et de méchants, des guerres un peu des guerres régulières, je sais pas comment on pourrait dire ça. Et dans le western spaghetti, tous ces codes-là sont complètement inexistants. Il y a plus de héros, il y a que des espèces d'anti-héros qui sont à la fois présentés comme étant les gens que tu vas suivre dans le film, et puis qui sont capables en fait de commettre les pires cruautés 10 minutes après parce qu'on essaie de leur voler leur portefeuille, etc. Et j'ai lu comme ça que l'individualisme et l'anarchisme étaient les deux piliers du western spaghetti. Et du coup, comme une espèce de monde qui se déploierait dans lequel il n'y a plus aucune morale et que c'est seulement la loi du plus fort qui compte, etc. Mais avec le week-end de la fête des Lentillères, les 1, 2 et 3 mai, peut-être qu'il y aura un nouvel héritage, un nouveau rebond dans cette espèce d'histoire du western international qui serait de nouveau un pendant révolutionnaire du western, où là, on trouverait une nouvelle manière d'abolir la morale sans pour autant incarner la loi du plus fort.
Voilà. Et du coup, du cours de médecine en italien, western spaghetti et Sergio Leone, la boucle est bouclée.
Il faut présenter le concours quand même, parce que je parle de la fête des Lentillères.
Ouais. Et du coup, le concours de mini western qui aura lieu pendant la fête des Lentillères est bien sûr ouvert à tous, et on espère que le maximum de gens viendront, et surtout des gens inexpérimentés en cinéma, et qui pourront se livrer à toutes sortes de mises en scène avec du matériel qui leur sera mis à disposition. Et donc on vous invite à venir le vendredi soir au moment de l'apéritif, donc le vendredi 1er mai, pour une présentation de ce concours qui est ouvert à tout le monde, je le répète, et surtout aux gens inexpérimentés. Et pour finir cette émission, on va vous envoyer une petite lecture d'un texte de Jim Harrison qui est présenté au début de l'extrait sonore et qui vient conclure notre épopée vers l'Ouest.
Dans l'immédiat, soudain, Tristan entendit un long gémissement de un coup et se retourna, videux. avec l'histoire qui va suivre, nous sortons quelque peu du western. L'œuvre de Harrison, ici précisément Legends of the Fall, nous nous trouvons plus dans une inspiration western. Effectivement, on retrouve l'état du Montana, très présent dans le texte, état de l'ouest américain, même du nord-ouest américain. On retrouve l'ambiance ranch, les chevaux, les grandes étendues, les paysages. Mais nous n'avons pas vraiment affaire à des cow-boys. Par contre, nous avons vraiment affaire à des Indiens. Legends of the Fall est écrit par Jimmy Harrison à la fin des années 1970. On y trouve une écriture violente dans son contenu. Des personnages dévorés d'obsessions quasi primales. Des personnages complexes et transformés. Et par moments, épris d'une tendresse presque douloureuse. On peut voir dans Jimmy Harrison un apôtre de la mythologie du Nouveau Monde, du Nouveau Far West, du devenir des grands espaces, des œuvres habitées par le vent, les nuages, le passage des saisons, les forêts. Cette histoire se passe au fin fond du Montana, dans un petit village, un ranch même, où grandissent trois frères, Tristan, Alfred et Samuel. Ils grandissent avec plusieurs personnes, leurs parents, Isabelle et Ludlow, propriétaires du ranch, et des commis, et plus que ça, des bras droits du père, Decker, un ancien malfrat qui a trouvé refuge ici. Un coup, un Indien, qui vit là depuis plusieurs années aussi, avec sa fille Pet, mariée à Decker. L'histoire commence au moment où les trois frères partent à la guerre. Ils prennent le bateau pour l'Europe et vont se battre du côté des Français entre 14 et 18. Enfin, entre 14 et 18, disons plutôt au début des intercations. En effet, assez vite, une nouvelle tragique parvient à la famille. Les nouvelles mirent plusieurs semaines avant d'atteindre le Montana. Par un après-midi de février froid et ensoleillé, l'un des employés du ranch conduisit Pet à Choteau pour acheter des provisions et prendre le courrier. Ludlow essuya le givre qui couvrait la fenêtre de la cuisine et regarda rêveusement l'ombre bleue de la grange projetée sur la neige par un maigre soleil. Decker et Incou étaient assis à la table et buvaient un café en comparant les altitudes des montagnes sur des cartes étalées devant eux. Incou corrigeait les chiffres que lui citait son ami. Il connaissait bien cette région qui va de Browning à Missoula pour l'avoir parcouru en compagnie d'un ami Cree qu'on appelait respectueusement « celui qui voit comme un oiseau ». Cet homme possédait une perception étonnante des reliefs du territoire. Mais Incou n'aimait pas les chiffres attachés aux montagnes. À quelle hauteur se trouve-t-elle au-dessus des sept mers? Quelle importance, puisqu'il n'y a pas de mer à proximité. Incou estimait qu'il existe de grandes montagnes sans caractère, tandis que d'autres, plus petites, sont des endroits nobles et sacrés où des sources jaillissent pour le bonheur de tous. Incou interrompit cette discussion pour demander à Decker de lui lire un passage de « Entre les griffes du Nyaka » de G.H. Patterson. Ce colonel anglais était aussi l'auteur de « Mangeurs d'hommes du Tas » était aussi l'auteur des « Mangeurs d'hommes des Tsavo ». Et les deux livres traitaient d'aventures de chasse et d'exploration en Afrique orientale. Decker était las de lire et de relire ces livres à Incou, mais Tristan avait inauguré cette habitude de nombreuses années auparavant. Incou fermait les yeux, avec satisfaction, en écoutant ses passages favoris. Celui où les lions se précipitent sur un wagon à plateau pour dévorer les employés du chemin de fer. L'histoire de cet éléphant solitaire, à qui il ne restait qu'une seule défense, et qui éventra un cheval nommé Aladdin, et surtout, la meilleure de toutes, celle des rhinocéros qui mouraient en grand nombre en chargeant des trains qui traversaient leur territoire. Pour Incou, ce passage évoquait la vision des milliers de bisons attaquant le North Pacific et le faisant dérailler. Cette scène assez quotidienne vient juste avant une nouvelle tragique, la mort de Samuel, le dernier fils, le Benjamin de la fratrie. À la suite de cette nouvelle, tout le monde s'enterre dans une tristesse terrible. Le père et surtout l'aîné des fils. L'aîné des fils va vouloir venger son frère. Il va s'attaquer à un colonel. Suite à cela, il est mis en prison. En prison, il pense à une seule chose, s'évader, et il y arrive assez vite. Après cela, sa seule idée est de s'enfuir de l'Europe et de revenir le plus vite possible aux États-Unis. Alors, il vole un cheval et il s'en va à travers la France, jusque sur la côte bretonne pour prendre un bateau, un vaisseau qui va le ramener aux États-Unis. Enfin, pas vraiment. Le vaisseau le ramène dans un port, et dans ce port, Tristan sait que son grand-père habite depuis plusieurs années. Alors, il va aller voir son grand-père qui est lui aussi matelot, et s'arranger avec lui pour partir en expédition. Et donc, ce qu'il ne savait pas, c'est que le grand-père participe d'un commerce quelque peu, comment dire, douteux. Assez vite, Tristan se rend bien compte que ces affaires douteuses peuvent rapporter beaucoup d'argent. Alors il en met de côté, et un jour, il revient au ranch. Ludlow et Inkou étaient assis sous la véranda et écoutaient une symphonie transmise par la radio. Il est difficile de décrire le ravissement muet de Ludlow lorsqu'il vit apparaître le cheval de Tristan qui cherchait un chemin entre les plaques de neige fondues. Tristan sauta à terre et eut à peine le temps de recevoir le poids de son père qui lui tomba littéralement dans les bras depuis les marches de la véranda. Tristan ne put que répéter le nom de son père, mais celui-ci, rendu réellement muet par son attaque, ne pouvait lui répondre. Inkou regarda le ciel et sentit couler les premières larmes d'une existence si rude qu'elle en devenait presque aussi abstraite que le ravissement de Ludlow. Puis, Inkou entonna un chant. Dekker arriva en courant, étreignit Tristan, et l'un et l'autre essayèrent simultanément de se soulever du sol. En entendant ce bruit, Pet sortit de la cuisine et amorça une révérence que Tristan interrompit par une grande embrassade. Une jeune fille de 16 ans, vêtue de vêtements masculins et les cheveux noués en une longue natte, arriva avec une bride à la main. Son teint ambré était moins indien que fouetté par le vent. Elle fixa Tristan, puis perçut son regard, et elle s'en alla sans parler. Tristan se mit à faire les 100 pas sur la pelouse, puis annonça qu'il partait pour une promenade à cheval et espérait qu'il ne serait pas complètement ivre lorsqu'il reviendrait pour leur dîner. Il galopa jusqu'à la crique, près de la source dans le canyon. Les restes d'un tas de neige recouvraient la tombe de Samuel, et une pie s'envola de la pierre lorsqu'il descendit de cheval. Il suivit la trace invisible que laissait l'oiseau dans le ciel du canyon. Il constata que les tombes ne lui inspiraient pas le moindre sentiment. Il ne voyait devant lui que de la neige, de la terre et une pierre rongée par le temps. C'est suite à ce retour quelque peu périlleux que Tristan va rencontrer Isabelle. Isabelle, non plus sa mère. Isabelle qu'on appelle Deux, qui est la fille de Pet et d'Eker, de sang indien donc, parce que Pet est indienne, et qui va devenir petit à petit sa compagne. Il va même avoir 3 enfants avec lui. Mais assez vite, la chute est initiée par la Grande Dépression. Dépression économique qui va pousser le père à vendre plus de la moitié de son bétail et de garder que les bêtes de concours. Alors, pour assurer la survie du ranch, Tristan va décider de reprendre ses vieilles affaires de contrebande. Il y a peu de choses à dire au sujet du bonheur. Il se contente d'être lui-même, placide comme presque somnolent. C'est un état que l'on adopte d'un cœur léger, mais avec un esprit parfois torturé. Le malheur s'abattit de nouveau sur Tristan au retour d'une expédition sur Great Fall où il conduisait un troupeau au chemin de fer accompagné des hommes du ranch et de Deux. Ce fut un voyage d'autant plus agréable qu'il fut mené à la mode d'autrefois. On était en octobre et la bourse venait de s'effondrer. Tristan parvint tout de même à obtenir un peu d'argent pour son bétail et tous, c'est-à-dire Deux, Tristan, Dekker, le Cri, à demi noir et un Norvégien, qui faisait partie de l'équipe de charpentiers venus quelques années plus tôt, décidèrent de rester en ville pour fêter la vente. Ils s'offrirent un magnifique repas au meilleur restaurant de la ville, burent de nombreuses tournées, mais furent un peu intrigués par l'élégance et la richesse évidente de l'équipe du ranch voisin qui venait de gagner un gros paquet d'argent en ramenant du Canada un stock d'alcool de contrebande, défiant ainsi la nouvelle loi Volstead sur la prohibition. Ils formaient une étrange procession dans l'étroit canyon qui s'ouvrait près de Choteau. Les chevaux suivaient la packyard qui avançait au ralenti, s'enlisant parfois dans les bouts d'octobre. À la sortie du canyon, près de l'endroit où la route tourne au nord, vers Choteau, ils furent arrêtés par la loi. Une loi représentée par 2 hommes en armes et un coupé Ford qui bloquait la route. Les officiers fédéraux tirèrent en l'air, ainsi qu'ils en avaient vaguement reçu l'ordre. La procession fit halte sans rien perdre de sa bonne humeur. L'officier fédéral, principal, avait entendu parler du chargement et envoyé ses hommes pour les confisquer. Ils reconnurent Tristan et lui dirent en s'excusant presque qu'il devait se présenter devant le tribunal d'Helena en novembre, mais que, dans l'immédiat, il avait l'ordre de détruire l'alcool qu'il transportait. Soudain, Tristan entendit un long gémissement, de un coup, et se retourna. Vit Deux, assise à l'arrière, au milieu des cadeaux et des paquets. Elle semblait muée, en statue de pierre. En ricochant sur une paroi du canyon, une balle l'avait frappée en plein front, laissant une trace rouge à peine plus grande qu'une pièce de monnaie. Tristan devint subitement enragé, voulut saisir le pistolet qu'il ne portait pas sur lui et se mit à frapper les officiers avec tant de brutalité que l'un des deux resta dans le coma pendant plusieurs mois. Puis, il prit le corps de deux dans ses bras et se mit à courir vers le bout du canyon. La procession le suivit, tandis qu'il courait ainsi sur des kilomètres, trempé par la pluie froide, serrant le cadavre contre sa poitrine et poussant, parfois des hurlements et des imprécations, dans une langue inconnue sur cette terre. Suite à cet épisode, Tristan repart du ranch, va retrouver le bateau de son grand-père, sans son grand-père qui est trop vieux pour pouvoir naviguer, et reprend les affaires de contrebande, toujours plus périlleuses, toujours plus dangereuses. Lorsqu'ils s'ancrèrent à nouveau en Californie, lors du voyage suivant, ils s'arrêtèrent dans la baie de Tomal, près du pont Reyes. À l'aube, un canot à moteur s'approcha de leur mouillage, mais ils étaient prêts. Les hommes du canot ignoraient que Tristan avait déjà débarqué sa cargaison à quelques milles du nord. Tristan et le Mexicain regardèrent venir le bateau, caché sous des bâches mouillées. Le Norvégien et le Cri étaient dans le carré, prêts à constituer une seconde vague d'assaut en cas de besoin. Depuis l'embarcation, un homme arrosa le rouf d'une brève rafale de mitraillette. Aussitôt, Tristan et le Mexicain ouvrirent le feu avec un .375 et un fusil à éléphant. Tristan reconnut deux des hommes qui les avaient attaqués à San Francisco. Et c'est sur eux qu'il déchargea les 500 plombs des cartouches destinées aux plus grands mammifères de la Terre. Les hommes éclatèrent littéralement hors du canot. Le Mexicain défonça la ligne de flottaison, puis il visa posément les têtes des deux survivants qui nageaient maladroitement autour des débris. Alors, il tira. Lorsqu'on se trouve près de Choto, sur la route de Ramshorn, on passe devant l'entrée d'un ranch que dirige maintenant le fils d'Alfred. Toutefois, l'accès est prohibé. C'est devenu une entreprise moderne qui fonctionne efficacement, avec un peu plus loin dans le canyon. Mais un peu plus loin dans le canyon, on trouve quelques tombes qui ont une grande signification pour quelques survivants. Il y a les sépultures de Samuel, deux, et Susanna. Et légèrement en retrait, Ludlow est enseveli entre ses deux meilleurs amis, Inku et Isabelle. Decker et Pete reposent en contrebas. Toujours isolés, résolument à l'écart, un peu seul peut-être, Tristan est enterré quelque part en Alberta.
Et c'est ainsi que prend fin ce nouvel épisode de Vacarme en Réunion, qui est capable par des pirouettes logiques extraordinaires
et des clés de voûte imparables
de vous faire comprendre soudain le lien entre Il était une fois la vie, Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois la Révolution.
Lien ténu, mais certes chargé de toute la nécessité.
Et l'on se retrouve dans 15 petites journées pour un nouvel épisode épique de Vacarme en Réunion, où l'on parlera cette fois-ci de